Hop, 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 et puis voilà. Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui. Je vais vous faire une chronique musicale. Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a un petit jingle qui est parti alors qu'il n'aurait pas dû, mais tout va bien.
Bonjour les amis. Bon bah ça fait plaisir de se retrouver en direct.
Et oui, ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps, effectivement. Donc bonjour Guillaume,
bonjour
à nos amis
Anne-Marie,
qui nous écoutent.
Bonjour Caroline qui va pas tarder à nous rejoindre,
voilà.
qui doit nous écouter peut-être.
Exactement.
Sur le trajet, voilà. Donc pour le sommaire, de quoi vas-tu nous parler
Je vais vous parler d'examen.
Ah, un lien avec le bac
On va voir, il y a de fortes chances. Et toi Guillaume?
Moi, je vais vous parler d'Orlando, de ce qui s'est passé effectivement aux États-Unis. Et puis, je ferai le lien avec une actualité assez lausérienne aussi, avec la projection de la sociologue et l'ourson au Ciné-Théâtre à Saint-Chély la semaine dernière. Et bon, on commence tout de suite, Anne-Marie. Et donc, les examens.
Oui, alors, disons que j'avais cherché, comme toujours, hein, c'est ce qu'on fait à chaque fois, on essaye de trouver une idée un peu originale peut-être à traiter, une idée en lien avec l'actualité. Alors, j'aurais pu évidemment préparer une chronique sur les crèmes solaires, mais bon, vu le temps, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine.
Non, effectivement, c'est pas vraiment de saison.
C'est pas de saison. J'aurais pu aussi vous énumérer les nouvelles tendances liées au sport. Mais on parle de l'Euro de foot tous les jours. Donc, moi, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée de parler sport aujourd'hui. J'aurais pu aussi vous parler de cet espoir en l'être humain qu'on a forcément tous, plus ou moins. Mais vu les événements qui ensanglantent de nombreux pays, j'ai préféré ne pas aborder le sujet et donc m'abstenir. Alors on va opter, enfin ou du moins je vais opter pour un sujet bien d'actu qui rythme votre et notre quotidien en cette période. Je pense bien évidemment au baccalauréat.
On n'est pas très concerné quand même.
Eh bien si, tu vas voir qu'on est concerné, puisque ce sujet qui revient tous les ans dans les médias, qu'on appelle donc un marronnier, nous fait bien stresser même si on ne passe pas l'examen. Ça fait déjà quelques temps qu'on a des sujets sur le baccalauréat. On allume la télé ou on allume la radio, on ouvre un journal ou on ouvre une page web, et paf, on nous abreuve d'articles sur le baccalauréat. Et d'ailleurs, dans notre studio arrive Caroline, qui a eu son baccalauréat il y a de cela quelques années, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Mickey est quand même concerné par le baccalauréat.
Merci Anne-Marie, tu es gentil.
Bonjour à tous. Et j'ai rien à te demander aujourd'hui, tu vois, comme quoi. Chaque année, donc, on nous trouve le plus jeune qui passe le bac.
Évidemment.
Chaque
14
année.
Ans cette année.
Mais le plus vieux aussi.
82, je crois, non?
Tant qu'à faire, des triplés ou des quadruplés, hein, pour l'image, c'est toujours plus sympa, qui passe donc en même temps le bac. Ces derniers jours, on a même eu droit aux révisions d'un père qui passait le bac avec son fils.
Oh, c'est beau.
Voilà. Bref, le baccalauréat se consomme au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, une vraie angoisse. Eh bien, on va quand même continuer à en parler aujourd'hui, je suis navrée. Mais au lieu de parler du bac d'aujourd'hui, je voulais justement remonter un peu aux origines du bac et vous en apprendre peut-être un peu plus sur cet examen.
Alors, tu veux donner en fait un peu de la place à cette idée qu'on retrouvait aussi dans ces marronniers de ces jours-ci sous-entendre donc qu'à notre époque, c'était beaucoup mieux. Et que maintenant, non. On donne le bac. Non, c'est pas ça?
Non, à même pas. Qui. Ah, même pas. Ah, non, bon. Non, même pas. C'est plutôt l'historique du bac.
Ah, très bien.
Je vais même vous poser des questions concernant le bac d'antan, en 1950, en 1939. Voilà. Non, mais vous inquiétez
un
pas.
Un témoignage, Caroline, c'est ça?
Il n'y a pas de dissertation à faire en cas.
Ah, mais dis alors, autant Anne-Marie était sympa, mais alors toi, tu me cueilles.
Ah, mais vous verrez tout à l'heure, parce que je vous ai préparé un petit bêtisier pour la fin de cette émission.
J'ai passé vraiment mon bac en 1950, quand même.
Alors,
un petit écho aux phrases qui seront tout à l'heure dans le bêtisier.
Alors, première question, est-ce que vous savez justement d'où provient le bac? parce que le bac ne date pas quand même d'aujourd'hui.
C'est Napoléon.
Oui, ça remonte même avant Napoléon. Oui, mais tu as raison, la naissance du bac.
Du bac en tant que bac, c'est Napoléon.
En tant que bac, 1808, Napoléon, exactement. Alors en France, le baccalauréat, hein, souvent.
J'ai aucun mérite parce que j'ai entendu un des fameux marronniers dans la semaine, Anne-Marie.
Et tu l'as retenu, il sait bien.
Oui, oui, oui.
Alors en France, le baccalauréat, souvent appelé bac, hein, plus communément, est issu de l'ancien français, donc bachelier, et du latin médiéval baccalarius. Ça voulait dire un jeune homme qui aspirait à devenir chevalier, vous voyez. On en est bien loin aujourd'hui. C'est donc un diplôme national, je ne vous apprends rien, sanctionnant aujourd'hui la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles, ne les oublions pas. Je vous le rappelle, hein, pour obtenir le bac, il faut 10 de moyenne. Minimum, évidemment. Le terme baccalauréat est donc apparu au sein de l'Université de Paris au XIIIe siècle. Pour désigner un grade intermédiaire vers la maîtrise des arts ou les doctorats en droit, en théologie et en médecine. Il s'est répandu ensuite dans les autres universités de France et même en Grande-Bretagne, hein, via l'université d'Oxford. Il fut repris, et tu le disais Caroline, par Napoléon lors de l'instauration de l'Université de France en 1808, au sein de laquelle donc, les baccalauréats des lettres et des sciences, dont est directement issu le baccalauréat général actuel, reprirent donc en partie le rôle de la maîtrise des arts dans les anciennes universités. Le baccalauréat, vous l'avez bien compris, a fêté donc en 2008 ses 200 ans d'existence. En 2008, il y avait 500 000 lauréats contre seulement... Alors, j'aimerais bien vous me donniez un chiffre. Lors de cette première session en 1808, il y en avait combien ? Alors, donnez-moi un chiffre au hasard.
T'as dit combien, 150 lauréats ?
Alors, il y en avait 500 000 lauréats en 2008. Ah, et oui. 200 ans avant, il y en avait combien ?
Ah,
500, on va dire.
Ouh là là,
on est loin du compte.
Ah oui, ouais. Il y en avait 31.
Ah oui.
31. Il n'y avait que des hommes, et ça, on va le voir, puisque c'est un petit cours d'histoire, mais vraiment très très rapide. Donc les premiers baccalauréats, comme je vous l'ai dit, datent du XIIIe siècle, avant l'apparition de l'Université de Paris. Le baccalauréat est alors conféré donc, dans les quatre facultés, faculté des arts, de médecine, de droit et de théologie. Bien, alors, après la Révolution française qui supprime les universités, le baccalauréat a été donc réorganisé pour les cinq disciplines d'alors, sciences, lettres, droit, médecine, théologie, par Napoléon Ier en 1808, avec les deux autres grades, la licence et le doctorat. Le baccalauréat devient alors un grade d'État. Je vous passe des informations. Pour arriver en 1830, apparaît la distinction entre lettres et sciences et est introduite la première épreuve écrite consistant en une composition française ou la traduction d'un passage d'un auteur classique. Et en 1840, apparaissent les premières mentions très bien, bien et assez bien qu'on a toujours gardées. Au cours du 19e siècle, deux groupes de baccalauréats se distinguent. Les lettres et les sciences que l'on prépare au sein des lycées et les trois autres baccalauréats qui sont des grades intermédiaires des études supérieures menant à la licence. En 1927, les baccalauréats de l'enseignement classique et moderne sont remplacés par le bac de l'enseignement du second degré dont les épreuves demeurent cependant durant longtemps encore organisées par les facultés des lettres et sciences humaines et les facultés des sciences. Hein. À cette époque-là, c'était donc les facultés qui organisaient le bac.
C'est le premier grade de l'enseignement supérieur,
ce qu'on
sait rarement parce qu'on a l'impression que ça clôt le cycle justement inférieur. Et en fait, j'ai appris dans cette chronique marronnier de la semaine dernière que c'est le premier grade de l'enseignement supérieur.
Tout à fait.
Et les présidents des jurys sont des professeurs des universités.
Tout à fait.
Exactement. En 1945, la classe unique de terminale est scindée en trois. On a philosophie, sciences expérimentales et mathématiques. Prépare chacune une épreuve de baccalauréat distincte. Et alors là, vous allez me dire, on parle toujours pas des femmes. Eh ben, on y arrive. Donc, ce baccalauréat, je vous le disais, à la base, il était quand même destiné aux garçons de la bourgeoisie, finalement. La première femme à passer le baccalauréat, alors peut-être que tu le sais.
Ah non, Caroline, non, j'ai quand même pas retenu ça.
C'est en 1861, et c'est Julie Victoire Daubier. Sauf que vous vous doutez bien qu'à cette époque, c'était la première, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est à partir de 1924, lorsque les programmes secondaires pour garçons et filles deviennent identiques, que le baccalauréat s'ouvre largement aux filles. Voilà, donc il a fallu attendre 1924.
Plus d'un siècle après sa création moderne, on va dire. Donc,
voilà, hein. Bien plus, oui, effectivement. Le second palier dans la hausse du nombre de bacheliers intervient à partir des années 30, quand le lycée public devient gratuit. Puisque je vous le disais avant, c'était vraiment pour la bourgeoisie et destiné surtout aux garçons. Cependant, l'explosion du nombre de bacheliers intervient réellement à partir des années 60-70, quand le primaire supérieur, la partie du système scolaire réservée aux familles modestes, est supprimée au profit du collège unique. Et ça, c'est en 1975. Alors, jusqu'en 63, le baccalauréat comportait une première partie et une deuxième partie. L'obtention de cette première partie était obligatoire pour passer en terminale et postuler au baccalauréat. La première partie est remplacée en 1963 par un examen probatoire, qui ne dura d'ailleurs que 2 ans. Il est supprimé en 1965.
Sa mise en place était probatoire.
Oui. C'est ça. Et un oral de contrôle est mis en place pour les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne. C'est aussi pour la raison pour laquelle a été introduite en 69 une épreuve anticipée de français en classe de première, qui existe toujours, puisque les élèves de terminale étudient la philosophie en lien et place du français. Moi d'ailleurs, je sais que j'ai passé, quand j'étais en littéraire, le français, les mathématiques, la physique-chimie en première. C'était toujours ça de moins à réviser en terminale.
T'es une jeunette, toi.
Et puis c'était surtout ça de moins à avoir toute l'année, parce que c'était en tout cas les mathématiques et la physique-chimie des matières qui m'étaient insupportables.
Oui, et puis ça complétait avec un renfort sur d'autres, matières littéraires, philosophie, etc. Mm.
Et puis à cette époque, vous le savez, alors c'était peut-être ton époque, Caroline, il y avait A, B, C, D, E, les filières.
Oui.
C'est ça, qu'on appelle aujourd'hui, effectivement, qui ont été remplacés par L, E, S, S, et puis évidemment aussi les STT, tout ce qui
est techno,
tout ce qui est,
voilà. Alors, le baccalauréat professionnel est établi en 1985, donc là aussi, c'est très jeune, 1985.
Bah oui.
Quelle jeunesse.
30 ans. Année où le ministère de l'Éducation nationale, vous vous en souvenez d'ailleurs, qui était...
En 85 ?
Ah oui, ça on s'en souvient bien.
Oui, on s'en souvient bien, oui, je pense. Ouais.
C'était Jean-Pierre Chevènement. Proclame que le but à atteindre est d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Cet objectif est ramené à 74%. Et en 2008, environ 64% d'une génération est titulaire du baccalauréat. Alors évidemment, après... ces chiffres explosent et ça, on le verra tout à l'heure. Le baccalauréat est ainsi passé en un peu plus d'un siècle et demi d'un diplôme élitiste et bourgeois, sélectionnant donc les futurs cadres de la nation, à un diplôme de base, indispensable à toute formation et carrière professionnelle, évidemment pour entrer dans les grandes écoles ou l'université, bien évidemment. C'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on ne réussira pas sa vie et qu'on ne fera pas autre chose. Et ça, je vous le dirai d'ailleurs un petit peu plus tard. Alors, ce que je voulais surtout vous parler, parce que bon, l'historique c'est bien, mais c'était aussi des sujets qu'on pouvait donner à l'époque. Et vous allez voir quand même qu'effectivement ça a changé, mais c'est pas du tout dans cette nostalgie de dire avant c'était mieux ou pas, hein, Guillaume.
Non, parce qu'on l'a entendu, c'était un des marronniers d'hier avec les sujets du bac de philo, de dire oh bah oui, mais de toute façon maintenant on leur donne.
C'est évident de toute façon qu'il y a.
Le niveau baisse.
Enfin. Oui, oui, mais enfin, on demande aussi aux professeurs qui corrigent les copies d'harmoniser les notes, d'être un peu plus sympa dans les corrections.
C'est le grand mot de l'éducation nationale.
Mais enfin, ça existe quand même, il faut quand même s'en cacher.
Allons-y.
Alors, c'est compliqué, mais bon, vous allez quand même essayer de me donner une réponse. Mais quel sujet de philosophie a été donné en 1835 à traiter en 4 heures ? Alors, bon, une thématique en philosophie...
Oh, le droit, la politique, quelque chose un peu de... Non, je ne sais pas.
Caroline ?
La morale ?
Je ne sais pas.
Eh bien, c'était la destinée de l'homme. Oh. Sachez qu'au XIXe siècle, les sujets sont très souvent lapidaires. On attend davantage des candidats la reprise des connaissances données par l'enseignant sur les grands systèmes philosophiques plutôt qu'une pensée personnelle.
Voilà. C'est alors... le cas aujourd'hui.
Oui, mais on te demande aujourd'hui
quand même,
on te demande quand même aujourd'hui de prendre, évidemment, d'avoir des références, mais de pouvoir aussi toi-même avoir cette pensée, puisque c'était quand même, c'est aujourd'hui ça l'enseignement de philosophie en terminale, c'est pouvoir réfléchir par soi-même. Alors, bah, juste pour faire un lien avec l'actualité concernant les épreuves de philosophie, donc cette année, différents sujets ont été donnés. Hein. Alors en S, vous le savez, il y avait deux sujets, c'était travailler moins, est-ce vivre mieux ? En lien vraiment avec l'actualité. Faut-il démontrer pour savoir ? On avait en L, nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ou bien le désir est-il par nature illimité ? Ça, ça aurait été un sujet que j'aurais vraiment voulu avoir en philosophie.
Bon, alors, ce que tu ne racontes pas, c'est qu'il y a eu un couac hier à 9h15.
Il y a eu un couac parce que le ministère avait annoncé...
n'a pas donné les bons sujets. Le service com a donné les sujets de Guyane qui avaient eu lieu la veille.
Exactement. Aux Antilles et Guyane, c'est...
C'est le temps que ça arrive, vous comprenez.
C'est ça. Oui, c'est ça.
Alors, en filière ES, c'était...
Ça m'a fait tweeter faux, moi, hier.
Oui, parce qu'en plus, il y avait des sujets sur la politique qui étaient assez intéressants.
Il y avait un sujet, mais il y avait notamment la politique est-elle l'affaire de tous pour la série L et, voilà, moi, j'étais convaincue que ma fille aurait donc pris ça.
Eh bien non, alors elle a pris quoi ?
Elle a pris le texte, le commentaire des textes, qui était un texte d'Anna Arendt, extrait de son ouvrage
Vérité et politique.
Vérité et politique, ouais.
En ES, nous devions, alors, enfin, nous devions, on ne l'a pas passé, hein, mais, les étudiants, les lycéens devaient travailler sur savons-nous toujours ce que nous désirons ? Et pourquoi avons-nous l'intérêt à étudier l'histoire ? Et concernant la filière technologie...
Alors, je peux vous dire qu'avons-nous intérêt à étudier l'histoire ? Il y a deux lycéens de Chaptal seulement qui ont pris ce sujet. Ah.
Concernant la filière technologie...
Là, on a des informations de toute première main.
C'est ce que j'allais dire. Pour la filière technologie, on avait « Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois ?» Ou bien « Pouvons-nous toujours justifier nos croyances ?»
Ouais, des sujets, hein, quand même. Hein.
Ouais, alors.
Des sujets, mais alors ce que tu disais quand même un peu tout à l'heure, moi j'ai l'impression, je regarde ça quand même un peu chaque année, ça revient quand même.
De toute façon, le programme est ce qu'il est. Donc...
Oui, voilà. Hein, mais il y a quand même des grandes notions qui ont la cote, quoi.
Et puis, il y a quand même une forte résonance à l'actualité.
Oui,
quand même,
particulièrement cette année, semblaient dire les commentateurs hier soir.
Quand même, on le ressent. Hein,
Même si pour autant, les sujets ont été définis il y a quand même plus de 6 mois.
Oui. Oui, ils sont faits en octobre.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, mais en même temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce qui se passe moi, ça ne m'étonne pas. Alors, je vais vous donner le sujet d'histoire qui avait été donné en 1939, parce que je le trouve particulièrement saisissant. Ce sujet d'histoire au bac, c'était les causes de la Première Guerre mondiale, et on était en 1939. Ironie du sort, on souhaitait...
C'était
ainsi...
quasiment pas de l'histoire, quoi.
C'est hallucinant quand même. Hein. Ironie du sort, on souhaitait ainsi faire réfléchir sur les clauses d'un traité que les Occidentaux venaient de laisser bafouer par l'Allemagne nazie. On est en 39, on travaille sur la Première Guerre mondiale et on sait ce qui va suivre après. En géographie, voilà, dans les années 50, il y a un thème qui revient beaucoup, et bien c'est le monde rural en France. Parce qu'au moment où la population rurale devient majoritairement urbaine, justement,
c'est la dernière fois qu'on s'y intéressait.
Non mais c'est l'après-guerre, c'est vrai que les gens du coup désertent les campagnes. Et bien c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là justement où on s'intéresse, en tout cas les sujets de baccalauréat s'intéressent donc sur ce monde rural. Alors entre 1929 et 1950, il y a un thème qui revient énormément. Alors là cette fois-ci c'était en philosophie, c'est la conscience et l'inconscient. Il est en phase avec la fascination des philosophes de ce temps. Donc là, vous voyez, toujours relié à l'actualité, donc par les découvertes à l'époque de Freud et du docteur Jung. C'est un psychiatre suisse. Cette question ouvre aussi donc, à celle de l'engagement, mise au goût du jour par Sartre et Camus. Voilà. Alors, bon, vous le savez, je le dis quand même, en 1968, le bac, il est ce qu'il est, hein, puisqu'avec les événements de mai 68, il y a eu les écrits qui ont pu avoir lieu, mais pas certains oraux. Voilà. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres insolites sur le bac. Si je vous dis 21,18,
c'est la plus haute moyenne
possible. C'est la plus haute moyenne, exactement, qui avait été obtenue par Caroline, une élève du lycée de Calais.
C'était pas moi, hein.
Non, parce que t'es pas de Calais.
Non.
Elle avait pris une option, alors spécialité physique-chimie. C'était donc en 2013. C'est un record, comme tu l'as dit, Guillaume. Alors évidemment, on se demande comment c'est possible. Eh bien, c'est parce que avec ces
différentes options... Il y a des points bonifiants sur les options.
C'est des points bonifiants sur les options.
D'autant plus que cette gamine avait quand même pris chinois, latin et anglais européen en option. Donc,
effectivement.
Moi, je dis bravo.
Mais alors, ça sert, hein, les options. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon bac.
Mais enfin, le chinois, moi je dis chapeau, hein, chinois et latin.
J'ai eu 6 en maths, en série scientifique, alors autant vous dire qu'il fallait
j'avais
des points.
J'avais besoin d'options à côté.
Il fallait des points.
Tu prends tes pagaies.
Il fallait des points autour pour faire à peu près une note potable et passer du premier coup.
Alors je vous le disais en introduction, généralement les médias nous font toujours un portrait du plus jeune et du plus ancien qui passe le bac. Eh bien le plus jeune, c'est un record, c'est 11 ans celui qui a eu. Son bac c'était en 1989 et c'est un certain Arthur. Et alors, autre fait incroyable.
Qui a bien grandi depuis.
Oui, qui a bien grandi. Et en plus, c'est hallucinant, c'est qu'il n'a jamais été scolarisé. Oui. Ce sont ses parents qui lui ont donné des cours. Et il ne s'est pas arrêté là, puisque à 19 ans, il a obtenu son doctorat d'analyse numérique. 19 ans, l'âge où normalement d'autres passent leur bac.
C'est ça.
93, eh bien, c'est celui qui a passé son bac.
Le plus vieux.
Le plus vieux, mais qu'il ne l'a pas eu. Ah. Il l'a quand même passé deux fois. Il ne l'a pas obtenu l'an dernier. Mais bon.
Est-ce qu'il a retenté sa chance cette année?
Mais on n'en a pas entendu parler.
Je pense pas, parce que j'ai entendu que le plus vieux de cette année avait 92
Alors,
ans.
C'est
une dame, d'ailleurs.
Il est peut-être décédé dans l'année.
Mais rigole pas. Oui, c'est affreux.
C'est la réalité.
Est-ce que tu sais celui qui l'a le passé le plus?
Non.
Je crois que c'est 7 ou 8 fois.
Ah ouais, quand même. Bon, mais je voulais finir par ça, c'est pas parce qu'on ne l'a pas, encore une fois, qu'on a raté sa vie, on peut faire plein d'autres choses.
Ne pas avoir son bac, ne pas avoir de Rolex et réussir sa vie.
Exactement. Ouais, d'ailleurs, pour vous citer quelques exemples, eh bien, Pierre Bérégovoy n'a pas eu son baccalauréat, André Malraux non plus, Émile Zola non plus, pareil pour Georges Marchais. Alain Delon ne l'a pas, Gérard Depardieu ne l'a pas, Sacha Guitry, Michel Drucker, Christian Estrosi, Georges Brassens, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Louis Debré et Jacques Weber n'ont pas eu leur bac. Et je souhaite quand même bonne chance à tous ceux qui vont passer les écrits et les oraux.
Une petite pensée pour ma nièce Perrine.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité du jour, mais il y a un rapport accablant sur le bac. Un rapport de Terra Nova qui accable la façon dont les Français font passer le bac aux lycéens.
Et surtout le coût aussi.
Mais j'en ai pas parlé. Et pour un coût,
effectivement,
pour un coût énorme. Et des résultats qui ne sont pas probants. Donc je pense qu'il y a des choses qui risquent de changer.
Oui et non, hein, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué aussi.
Bien sûr.
Les réformes au niveau de l'éducation nationale, c'est pas toujours évident.
Les réformes en général en France, non plus de Marie.
On ne reviendra pas sur l'actualité brûlante du moment.
Bien. Et je vous propose d'écouter Christophe Maé, Il est où le bonheur?
Ah bah oui.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
Non.
Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. Il est là le bonheur? Il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, et il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Nous revoilà.
Deuxième partie.
On a cru qu'il y avait un grand blanc.
Et c'est toi, Guillaume, qui va animer cette deuxième partie.
Et oui, c'est avec une certaine émotion que j'ai écrit il y a quelques jours cette chronique du 68e numéro d'Actuel et lui. Deux émotions qui convergent en ce jour. Et la première, c'est celle du contenu de cette chronique, celle qui est montée ce week-end au fur et à mesure des nouvelles depuis Orlando aux États-Unis. Une fois de plus, une attaque contre des gens qui font la fête, qui vivent leur vie en passant de bons moments, de joie et de convivialité. Mais rassurez-vous, je ne passerai pas sous silence, contrairement à beaucoup d'hommes et de femmes politiques, le fait que c'est une boîte gay qui a été visée. Certains se sont aussi loupés dans leurs tweets en parlant de ce sujet-là. Sans doute, cette boîte était un comble d'abomination ou un lieu de perdition pour ce terroriste de la gâchette, ce meurtre de 49 morts.
Il semblait s'y perdre de temps en temps,
oui,
quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, il y allait, quoi.
Oui. Mais comment ne pas être profondément triste qu'un être humain ne puisse pas comprendre que notre planète est à tout le monde et que chacun peut y vivre en liberté, d'exprimer qui il est, de vivre tout simplement comme il l'entend, sans pour autant devoir anéantir ceux qui ne sont pas et ne vivent pas comme lui.
Ça pourrait être un sujet de bac, d'ailleurs. Ça.
Tout à fait. Comment ne pas être profondément triste et énervé quand parmi ceux qui sont les plus prompts à exprimer compassion et amitié au peuple américain sont ceux qui ont attisé et attisent toujours l'homophobie, en font même un argument politique pour les échéances à venir.
Ah ouais, il y a ça, ça existe.
Oui, voilà, suivez mon regard, la manif pour tous et compagnie. Comment ne pas être profondément énervé que des organisations, fussent-ils terroristes, dévoient complètement le message des religions qu'elles affirment défendre, et cela est valable pas forcément que pour les musulmans non plus. Oui, certes, les boîtes de nuit gays ne sont pas les endroits les plus innocents, les lieux de plus grande moralité au sens commun du terme, Ce sont des lieux de fête, de rencontres, de vie, sans doute d'excès.
Tu les connais ou pas ?
Oui, je les connais, très bien. Sans doute.
Ah bah non, mais moi je sais que je ne suis jamais rentrée dans une.
Sans doute d'excès. Oui, non, moi non, je connais.
J'avoue.
Mais avant tout, des lieux de liberté. Alors, ce qui est pire dans tout ça, finalement, c'est qu'avant même ce drame d'Orlando, j'avais prévu de vous parler d'homophobie. Alors, je tiens.
Un visionnaire, Guillaume.
Pas du tout. Je tiens ici une nouvelle fois, puisque Caroline l'a déjà fait pour une autre de ses propositions, à tirer un coup de chapeau à Samuel Lecabec et à toute l'équipe du Cinéthéâtre de Saint-Chély-d'Apché, qui a osé programmer la semaine dernière, mercredi soir, une soirée ciné-débat autour du film documentaire La sociologue et l'ourson. Alors, ce film, de quoi s'agit-il ? C'est un récit de septembre 2012 à mai 2013. La France s'enflamme sur le projet de loi du mariage pour tous et pendant ces 9 mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte à son fils Mathias, qui n'est pas du tout homosexuel, les enjeux du débat. Irène Théry, c'est la spécialiste française des questions de famille, d'évolution de la famille et de la filiation en sociologie. Sa première approche, elle l'explique d'ailleurs dans le film, était d'être plutôt opposée au mariage homosexuel. Mais après avoir travaillé, réfléchi sur ces questions, comme elle l'explique dans le film, elle est devenue plutôt tout à fait convaincue par cette évolution législative. Alors, ces récits enregistrés entre la mère et son fils, hein, une voix de téléphone pendant tout le film, c'est assez bien fait. S'appuie ensuite sur un cinéma avec des ours en peluche, des jouets, des bouts de carton, ce qui permet de prendre un peu de distance avec la remise en mémoire de cette séquence politique qui a vu quand même deux France s'affronter dans une ambiance assez délétère. Alors à la fois, c'est un portrait intime, mais c'est aussi le feuilleton national. Ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement, la famille, son histoire et ce qui s'est joué dans ces débats. Ce film est effectivement un concentré d'histoire, de pédagogie, de réflexion, un temps de recul 3 ans après pour porter un autre regard plus intelligent sur ce qui restait dans nos mémoires, au moins dans la mienne, comme un combat idéologique où l'égalité et la liberté ont fini par gagner après des mois de débats qui ne faisaient pas toujours honneur aux valeurs républicaines, me semble-t-il. Donc à Saint-Chély, mercredi, le débat s'est ensuite engagé avec l'assistance, une petite vingtaine de personnes, et avec le témoignage de l'association nationale SOS Homophobie. Alors je vous passerai les débats sur les difficultés pour vivre son homosexualité confrontée à l'homophobie dans la ruralité, les villes et les cités. Les débats sur l'évolution historique de la famille décrite dans le film et qui met forcément du temps à irriguer le territoire et les esprits. Et on a pu notamment en discuter avec une de nos sociologues lausériennes qui était présente. Mais pour terminer cette chronique, je voudrais quand même lancer un appel à tous ceux qui ont la possibilité d'offrir des espaces de dialogue et de rencontres auprès des jeunes, notamment dans les collèges, les lycées, le milieu sportif, associatif. Des médiateurs peuvent être mobilisés et sont prêts à venir échanger avec les jeunes. Pas pour en faire tous des homosexuels, rassurez-vous, mais simplement pour que les insultes faciles de PD, de tapette, ne finissent pas par des mal-être, voire des suicides. Et il y en a bien sûr qui sont dans ce cas-là. Aujourd'hui, en Lozère, l'homophobie violente et physique n'est sans doute plus une réalité, mais elle l'a été il y a finalement très peu de temps en Aveyron, à Millau. Et si la violence n'est que verbale au travers d'insultes, elle est déjà à combattre. Voilà, donc pour cette dernière chronique...
Elle peut être très sournoise dans le milieu familial. Hein,
tout à fait.
Et tout aussi violente.
Tout à fait. Dans cette dernière chronique, voilà, moi je voulais dire qu'il fallait essayer de prévenir, de nous ouvrir sur les autres, de nous respecter, de respecter les autres, plutôt que d'arriver à la violence, et donnons tous ensemble son sens à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qu'on a défendue, je crois, ces derniers temps, aussi pour d'autres choses. Je ne pensais pas écrire cette chronique forcément si engagée pour moi, hein, vous m'avez plutôt l'habitude de m'entendre sur des sujets un petit peu plus légers. Mais l'actualité m'y a conduit. Et donc, pour finir, pour tous ceux qui nous écouteraient et qui seraient victimes ou témoins d'homophobie, vous pouvez contacter SOS Homophobie avec une ligne d'écoute nationale anonyme. C'est le 01 48 06 42 41. Et c'est également www.sos-homophobie.org. Pour voir le film, je crois qu'il vous reste plus que la VOD. Donc, essayez de le voir parce que c'est assez sympa et on rigole en plus au milieu de ce documentaire. C'était une très belle soirée et qui effectivement a trouvé de l'écho malheureusement dans l'actualité de ces derniers jours. Et je vous propose d'écouter MP1.2. Alors, c'est un groupe de hip-hop local, puisque le MP c'est Midi-Pyrénées et le 1 et le 2 c'est l'Aveyron, qui ont joué il y a 2 ans à Festivalier. Et c'est une chanson qui s'appelle Au sens figuré.
Au sens figuré.
Aimerais-tu connaître la couleur de mon caleçon?
Si je préfère le loup ou le petit chaperon?
Si je pêche à la mouche ou si j'appâte à l'hameçon?
Si je préfère les filles ou je désire les garçons?
Dans des choses futiles sur lesquelles on s'arrime. Les sons à l'inutile,
nos jugements stériles.
Oh, laissez-nous l'amour, avouez qu'il est fort, qui vous croise un beau jour et qui plante son décor.
Ça ne fait pas toujours à ce que pensent les autres, mais suit ton parcours sans raser les bords.
Y'en a qui sont contents, et d'autres sont gays. Le plus important, c'est de vivre en paix. Alors,
est-ce qu'il y en a qui sont contents? Est-ce qu'il y en a qui sont gays? Le plus important, c'est de vivre en paix.
Moi je suis hétéro, etc. Mes pectoraux aiment les beaux-terras. Les belles nanas qui aiment la banana font des beaux lolos et des boulots. J'ai déjà tenté de réfléchir, voulant saisir ce qui m'attire. Mes pratiques doivent-elles s'élargir? Meuf, mec, meuf, je dois choisir. Et voilà que je pas gay. Dans le rapide me pomme, mais je sais que je suis pas gay. On me vit dans un monde où tout le monde fait le gay. Ceux qui sortent de la norme se font vite alpagay. Est si dur à comprendre qu'on n'est pas tous des clones. Qu'il n'y a pas que des vols, qu'il n'y a pas que des codes. La magame est énorme et qu'on en fait des tonnes.
Y'en a qui sont contents.
Y'en a qui sont contents.
Et d'autres sont gays.
Et d'autres sont gays.
Le plus important,
le plus important,
c'est de vivre en paix.
Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contents? Est-ce qu'il y en a qui sont gays? Le plus important, c'est de ne pas se faire enculer. Au sens figuré.
Ne prenez pas peur devant ces mots crus.
Chacun a le choix des choix de son cul.
Je préfère vous dire que je suis attristé quand j'entends l'amour pleurer ses cocus.
C'est conspire à deux,
c'est monter à cru.
Marcher sans filer,
naviguer à vue.
Aimer ce n'est pas se voir l'un l'autre, c'est regarder ensemble.
Il n'y aurait qu'une manière de croquer dans une pomme. Dans un monde uniforme, je vois un espace figé. Main dans la main, dans la vie, on se fout de la norme quand deux cœurs s'unissent et s'aiment pourvu qu'ils soient heureux.
Y'en a qui sont contents.
Et d'autres sont gays.
Et d'autres sont gays.
Le plus important.
Le plus important.
C'est de vivre en paix.
Homo, hétéro, hétéro, cli. Attention, homo, stéréotype. Tu n'auras pas de l'hétéro, c'est la vie, t'es ou clitoris.
Y'en a qui sont contents.
Y'en a qui sont contents.
Et d'autres sont gays.
Et d'autres sont gays.
Le plus important.
Le plus important,
c'est de vivre en paix.
Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contents? Est-ce qu'il y en a qui sont gays?
Le plus important,
c'est de vivre en paix.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actu, elle et lui.
Et on se retrouve pour cette troisième partie d'Actuel et lui avec Caro.
Qui n'est pas la dernière hein, partie,
non.
Puisque
restez avec
il
nous.
Y a une petite surprise
et ben oui.
Pour cette émission. Je ne vais pas relever le niveau de gaieté du studio, je crois. J'en suis désolée. Bon, c'est vrai qu'on m'avait dit quand je suis rentrée dans le trio que c'était une émission légère.
Non, pas forcément. On m'avait dit d'actualité.
Voilà.
Après, c'est de la faute à l'actualité.
Sous
donc,
un angle voilà. Que l'on souhaite. Mais...
Mais je suis un peu comme Guillaume, c'est vrai qu'il y a des actualités qu'il est difficile de, de présenter avec le sourire. Moi, je vais parler d'une actualité beaucoup plus proche de nous. Et pourtant, je suis convaincue, enfin vraiment foncièrement convaincue qu'elle a beaucoup de liens avec tout ce que vient de nous dire Guillaume. Je vais vous parler de l'extinction d'un phare vendredi soir du côté de Marvejols. Voilà, j'ai assisté à la dernière soirée du Théâtre de la Mauvaise Tête. C'est très bizarre d'être spectateur et de se dire qu'on va à la dernière soirée d'une structure qui va bien en plus, qui a trouvé sa place, qui a fait son trou, qui a son public. La salle polyvalente était une nouvelle fois remplie vendredi soir, plus de 150 personnes. Donc c'est vraiment enfin très bizarre. Alors c'est des sentiments un peu mêlés. Alors moi j'ai eu beaucoup de colère sur cette affaire. Je l'ai beaucoup écrit, beaucoup d'incompréhension que je partage avec toute l'équipe du théâtre et une partie des spectateurs. Et puis cette tristesse donc vendredi, une tristesse mêlée de beaucoup de bonheur parce que hasard de la programmation, je pense que quand Thierry Arnal a programmé cette dernière soirée de la saison, à l'époque, il y a donc plus d'un an, en partenariat avec Des Tours du Monde et Le Silo, parce que le TMT n'était pas seul sur ce territoire, il avait su créer et tisser des liens forts, associatifs, locaux. Voilà, quand il avait programmé cette dernière soirée, c'était plutôt pour que ce soit une soirée justement musicale un peu festive, de fin de saison. Bon, il se trouve que ça a été la soirée de la fin d'une aventure de 40 ans quand même, d'aventure sur un territoire, d'aventure culturelle. Franchement, c'est pas rien. Et c'était donc une soirée un peu surréaliste dans cette une espèce de bulle. On s'est d'ailleurs posé la question à la fin de la soirée qui a duré. Hein. Il y a eu un pot derrière et les gens avaient du mal à partir en se disant que ça serait la dernière fois, surtout qu'ils ont décroché les décos à la fin, donc pour les derniers qui sont partis, c'était vraiment particulier. Bon, une très très belle soirée, un très très beau concert hein, autour de Michel Marc, que beaucoup de Lozériens connaissent, parce qu'il est venu faire beaucoup de projets artistiques en Lozère, il est venu à Florac, il est venu à Mende, il a été à Marvejols plusieurs fois. Et Michel Marc, ce trompettiste de talent qui toujours explore des voies de rencontres, d'échanges avec les artistes, était sur scène avec deux artistes tunisiens qui ont, à deux reprises dans la soirée, donc chacun leur tour, dit la difficulté de la culture en Tunisie. Alors ça a permis certainement à certains spectateurs de relativiser, parce que défendre la culture en Tunisie, c'est au péril de sa vie. Quand en Lozère ou en France, où beaucoup de structures quand même sont en difficulté actuellement, c'est juste au péril d'une certaine liberté d'expression et
d'ouverture.
Mmh. Voilà. En tout cas, une magnifique soirée, tant pis pour ceux qui n'y étaient pas, une nouvelle fois, notamment tous ces élus lozériens qui ont dit avoir défendu ce dossier et qu'on n'a jamais vu au théâtre ou dans un lieu culturel de quelque sorte qu'il soit. Pour ceux qui y étaient, un moment certainement rare dans cette... je trouve même plus les mots, quoi, dans cette fermeture. Hein,
on se sent ému, hein.
Ouais, c'était un moment particulier. J'ai dû retourner à Marvejols dès le lendemain pour faire la journée citoyenne, autant vous dire que c'était un peu compliqué. Mmh. En tout cas, un très bon moment. Et puis, voilà, je pense que... je ne sais pas si vous savez d'où vient ce nom du Théâtre de la Mauvaise Tête. Moi, je l'ai appris vendredi. C'est son fondateur Bernard Grandjean. Et c'est d'un premier spectacle sur la peine de mort, qui n'était à l'époque pas aboli. Alors j'espère que de cette tête qui aura roulé, naîtront maintenant de mauvaises herbes, parce que je pense qu'en 40 ans, ils ont beaucoup semé et que ça ne demande qu'à germer pour se poursuivre. Voilà.
C'est vrai que la fermeture de lieux culturels, moi je l'ai vécu avec
terrible,
un cinéma il y a
terrible.
Quelques années. Et c'est assez particulier quand vous enlevez les affiches de la devanture du cinéma. C'est aussi des choses qui restent des souvenirs assez marquants. Bon.
Un peu de gaieté dans tout ça.
Oui, quand le cœur est un peu de peine,
C'est surtout que les auditeurs qui nous écoutent sont surtout, enfin, sûrement émus. Mais ça ne se passe pas effectivement qu'en Lozère.
Bien sûr, c'est
symptomatique aussi d'une problématique qui aujourd'hui est nationale. On le voit avec des baisses de subventions pour les festivals. Certains sont déjà morts. Donc forcément que ça touche les auditeurs, même s'ils ne connaissent
bien
pas
sûr,
le TMT, ils peuvent connaître d'autres structures ou d'autres festivals.
Comme du film, un cinéma, voilà, un festival.
Je pense que ça parle à tout le monde. Et puis encore une
fois, avec cette excuse récurrente quand même depuis 2 ou 3 ans, parce qu'on est soi-disant en crise, de dire il n'y a plus d'argent. De l'argent, on en trouve pour faire autre chose. Quand on voit ce qui est injecté dans l'euro de foot, je pense que de l'argent, il y en a, et qu'il pourrait y en avoir pour la culture. Ce sont des vrais choix.
Quand on voit le train de vie de nos chers élus,
de notre République,
c'est
clair.
On peut se dire que l'argent, il y en a, effectivement.
Bon, alors, quand on a un peu de peine au cœur, on se raccroche auprès des gens qu'on aime.
Je voulais faire un petit... Voilà. C'était un petit clin d'œil quand même à cette émission. Vous remerciez tous les deux, parce que je ne suis pas arrivée au début. Et vous m'avez coopté en cours de route, et je vous en remercie, parce que ça a été quand même... alors, j'ai pas fait les 68, t'as dit ?
Oui, 68.
Mais j'en ai fait quelques-unes, et c'est quand même un vrai plaisir d'avoir un moment de liberté comme celui-là, où on peut dire autant de bêtises que de choses sérieuses que l'on veut, et dans cette convivialité que nous avons toujours eue. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, alors, c'est un petit clin d'œil... à ce que j'ai toujours reprôné dans cette émission, mais c'est aussi parce que on en a un petit peu marre de ce temps qui nous tape sur le ciboulot. On voit bien que ça nous rend quand même un peu morose. Donc, une petite chanson en rapport au soleil.
Voilà, et
ça
après,
serait bien qu'il revienne.
C'est ça. Et après, on fait un petit point justement sur tout ces 68 émissions. Voilà, on en reparle après.
Se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude, sa voix. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, Burger, j'ai l'impression de mourir. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Alors voilà, oui, effectivement, on se retrouve pour une quatrième partie un petit peu exceptionnelle dans cette émission, puisque c'est la 68e et la dernière, le dernier numéro. Et effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y avait deux émotions, je vous en ai raconté une dans ma chronique. La deuxième, c'est celle-ci.
Je cherchais, moi, s'il me manquait une page.
Et voilà, donc 68 numéros d'Actuel et lui. Alors, c'est 62 d'Actuel et lui, tout court, et 6 numéros avec des Friends. Un rendez-vous donc du jeudi midi et demi qui arrive donc à ce dernier de cette émission. Alors pour terminer cette émission, je voudrais vous remercier, vous auditeurs d'abord, d'avoir ri à nos bêtises, suivi nos conseils, beauté, tendance, sexualité.
Oui, même si Anne-Marie n'a toujours rien reçu dans sa boîte aux lettres, oui. Ou alors elle ne nous a rien dit.
Et c'est comme la banane, vous entendrez tout à l'heure. Voilà.
C'est sûr.
voilà, vous avez suivi sans doute aussi certaines recettes peut-être. Partager en tous les cas nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors il faut forcément remercier très fortement Anne-Marie, avec qui on a créé ce projet au départ avec Aurélie.
Avec Aurélie, on était tous les trois, Guillaume.
Voilà.
Merci, Guillaume.
Qui est la seule Anne-Marie dans notre équipe actuelle à écrire réellement et à préparer chacune de ses chroniques.
Faut le dire quand même.
Faut le dire. Voilà, celle qui en plus est toujours dispo pour enregistrer le temps de midi, en fin d'après-midi, en soirée, le samedi, le dimanche. Contrairement à nous.
Ça veut peut-être dire aussi que j'ai moins de choses à faire que vous.
Mais voilà. Salut aussi l'engagement de Caroline à la suite d'Aurélie et donc fortement impliquée dans cette émission.
Beaucoup plus mauvaise élève.
je l'ai pas dit.
Moi je le dis, je l'assume.
Ouais, nous avons, et j'espère avec vous, chers auditeurs, passer de bons moments de radio et passer aussi, enfin, avoir de beaux souvenirs de cette aventure radiophonique. Alors on part pas, on sera là l'année prochaine sans doute avec Caroline. En tous les cas, on réfléchit à quelque chose, mais on a quand même parlé de beaucoup de choses dans Actuel et lui. Alors j'ai une sélection un peu orientée, j'avoue.
Tu nous étonnes.
Mais bon, il y aura quand même un peu de tout. Mais les sujets un peu sérieux comme le bac ou les Nobel, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de moments où on rit. Donc voilà, je vous propose de nous souvenir de quelques-uns des bons moments de ces dernières années.
D'après la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales,
on tape dans le level aujourd'hui.
Pas de Wikipédia, ça suffit, pas Wikipédia aussi.
Bon, mais Anne-Marie, vive les moches, c'est ça?
C'est ça, tu as tout compris. Abat le culte de la perfection, non mais ça suffit, même si la société nous pousse à être toujours plus performants, toujours plus beaux, toujours plus lisses, il faut savoir dire stop.
Stop.
Incroyable mais vrai, il existe un site de rencontres pour moches.
Oui, alors, j'aurais préféré vous affirmer le contraire, mais je suis bien tombée sur le site qu'on pourrait appeler celui de la dernière chance ou le musée des horreurs. Sur www.rencontre-moche.bi, vous allez surfer sur un site belge interdit aux moins de 18 ans, un site qui va peut-être sûrement même vous choquer. En tout cas, moi j'ai été choquée. Des femmes, alors souvent grassouillettes, mais ça c'est pas grave, on a le droit, hein. Mais, dans un âge certain, pose en petite tenue, voire en très très petite tenue.
Dans des pas tenues du tout, Anne-Marie.
Voilà, dans des positions, et cette fois-ci, très suggestives.
Ah, c'est ça, le c'était... voilà.
Voilà, c'était là.
Eh bien, je suis obligé de vous avouer que j'ai reçu il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres un prospectus intitulé « Problème d'érection, en parler tout simplement ». Donc, je ne parlerai pas
tu
de...
Tu veux nous en parler, Guillaume?
Non, je ne parlerai pas de problème d'érection, mais on va rester dans le coquin.
Et donc, une fois qu'on a bien embrassé,
c'est ça.
On ne va pas se coucher. Ah ouais, désolée pour ceux qui le pensaient. Non, on passe à table.
Oui, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'éjaculation.
Oui, donc on évite de passer au lit.
On y arrivera après.
Parce que le feu d'artifice, il y en a déjà parlé, Guillaume. Donc.
En fonction de la génération à laquelle on appartient, le nombre de partenaires au cours d'une vie varie. Pour les baby-boomers, il est estimé à 12. La génération X se contentera de 10 partenaires, alors que la génération Y, hein, c'est nous Anne-Marie, la génération Y, n'aura que 8 partenaires. Contrairement à ce qu'on s'imagine, nos parents se sont bien amusés.
Ils nous ont donc pas
c'est
tout dit.
C'est quoi la génération X ?
Bah, c'est entre les baby-boomers et la génération Y.
C'est moi, quoi, dis-le, Guillaume.
Oui.
Ouais,
on va dire ça comme
préparer.
Ça.
Je vais vous laisser, j'ai un peu de retard.
Fred, si tu nous entends.
C'est tombé, il a pas de course, la bonne idée.
Parce qu'en effet, la semaine dernière, c'était le salon de l'érotisme à Paris. Mmh. Et la presse a distillé notamment les nouveautés en termes de sextoys.
Ah oui, mais ça, c'est pour Anne-Marie. Oh, bah,
et oui.
C'est pour ça que tu ne pouvais pas en parler aussi, Guillaume.
C'est ça. C'est sûr qu'on attend toujours cette chronique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours déposer dans sa boîte aux lettres.
Tout à fait.
Tous les objets nécessaires.
Avant de conclure, il faut que je vous dise que Anne-Marie s'est vantée cette semaine par mail interposé, parce que la banane revient à la mode.
Tout à fait.
Hein, tu as reçu la même chose que moi, Guillaume.
Et là, j'ai eu peur. Hein.
Alors, je voudrais rappeler que nous attendons toujours pour pouvoir comparer, parce que du coup, elle se vantait d'être à la mode. Tout ça. On ne peut pas savoir, on n'a toujours pas vu la fameuse banane.
Oui, non, mais voilà, c'est qu'elle l'a, hein, maintenant. Ouais. Vu la façon dont elle a rédigé le message, elle l'a, mais elle ne souhaite pas la montrer.
C'est ça.
Je crois juste pour expliquer aux auditeurs, effectivement, j'ai lu un article dans un magazine féminin. Les bananes sont à la mode en ce moment. Les bananes, donc, se comportaient avant. C'était très, très moche, hein, mais bon, voilà. Autour.
La banane jaune, hanches, quoi.
Voilà.
Alors, la poule, elle n'était pas très colorée, celle que tu nous as envoyée, alors que la tienne était fluo, nous as-tu laissé entendre.
Avec un petit singe, là, qui aimait.
Mais
je ne sais pas où elle est.
On aimerait vraiment bien voir ça.
Donc, il y a l'entraîneur de tennis, le français, le pompier et le millionnaire. Donc voilà, il y en a un jaune, c'est pour le prof de tennis. Tennis, hein. Pareil, ça ne s'invente pas. Le millionnaire,
Garros, hein.
le millionnaire en violet, le pompier en rose rouge et le français en bleu. Ah, Caroline arrive à ce moment-là, au moment où je parle des sextoys avec des embouts différents.
Alors j'avoue que j'ai roulé comme une cabourre parce que louper cette chronique coquine me faisait vraiment...
Mais tu peux toujours la réécouter comme nos chers auditeurs.
Mais je l'ai écoutée en direct. Alors par contre, puisque tu dis ça Anne-Marie, je veux revenir sur une promesse qu'avait faite Guillaume. Alors j'ai pas à vérifier si ça avait été tenu sur la page Facebook, mais en tout cas ça a été tenu vis-à-vis de moi, c'est que j'ai bien vu Guillaume à poil. Et que je pense que ça aurait pu compter quand même pour ce classement, même s'il a 30 ans. Alors que je le rappelle, avant que Noël arrive, nous n'avons toujours pas vu la petite banane d'Anne-Marie.
Je retourne chez moi ce week-end.
Ah
chouette. Mais voilà.
Rendez-vous dans 15 jours.
Je vous ai rien promis. Oui, je ne vous ai rien promis. Je vous ai dit, ce week-end, je vais chez moi, je rentre à la maison. Et peut-être, si j'y pense, je vous ramènerai ma banane jaune. Oui, alors attention, je tiens à le préciser tout de suite, il n'y aura pas d'amour pour toujours dans cette chronique. Je vais plutôt parler de couples qui chantent peu ou qui ne chantent plus du tout. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Certains éprouvent peut-être encore des sentiments pour l'autre, mais ont été pris le doigt dans le pot de confiture. D'autres ont préféré tirer carrément un trait sur leur mariage, quitte ensuite à faire la fête. Donc j'ai ainsi découvert sur ce site que, alors bon, peut-être qu'il nous entend, bah, je suis désolée, hein. J'ai découvert que Dave, 73 300, âgé de 44 ans, pesant 60 kg pour 1m74, recherche une femme, et il n'a pas l'air très difficile puisqu'il écrit « Tout est possible » en face de la case « Je recherche ». Sinon, il y a Momo de 1815 ou 2815, je ne sais pas comment il a voulu écrire ce chiffre. Voici comment il se décrit, ce Momo. Beau mâle, 1m90 et surtout généreusement bien monté.
Eh oui.
Sachez, mesdames, qu'il recherche une cyber-aventure. Voilà, pour celles qui sont intéressées.
Oui, l'avantage en cyber-aventure, c'est que tu peux être bien monté. De toute façon, oui, personne ne s'en rendra compte. Hein.
Et la fille super bien gaulée, au pire, c'est sûr. Et alors, n'hésitez pas ensuite à les mettre dans des sandales, à les montrer, à même courir nu dans l'herbe, nu. Ah non, ça y est, pardon.
Alors,
vous avez bien entendu. Nu-pied, pardon, il manquait un mot. Nu-pied, à courir nu-pied.
Enfin, jamais de pique-nique ensemble dans la campagne. Parce que là, je vois très bien Caroline.
Sur le sable chaud ou l'herbe verte. Enfin, bon, allez, je vais vous dire pourquoi
c'est un fantasme.
Ça. C'est pas un fantasme, c'est quand au boulot, vraiment, il y a des journées où ça déborde, on n'en peut plus. C'est devenu une private joke avec mes collègues et je dis de temps en temps, oh, je rêve d'aller courir nu sur l'Aubrac. Ils savent là qu'il ne faut pas venir m'embêter, c'est que vraiment, je n'en peux plus. Donc voilà, à force de déconner, ben, c'est sorti.
On reste complètement décomplexé, même si Noël arrive, on se fait plaisir. Alors, on est décomplexé, mais bon, un petit conseil quand même, on n'est pas maso, même si on est décomplexé. Donc, n'allez pas regarder les photos du show de la marque de lingerie Victoria's Secret. Le défilé, qui a eu lieu le 2 décembre dernier à Londres, a une nouvelle fois mis en lumière les plus beaux mannequins du monde en petite tenue. Alors, taille zéro, zéro défaut, zéro graisse, zéro capiton. Bref, on se fait du mal pour rien. Et les hommes se font aussi du mal pour rien, car plus dur sera la chute.
C'était plutôt sur la radiesthésie dont tu as parlé précédemment. Quand j'étais étudiante en journalisme à Tours, on a eu pour un concours à travailler sur cette thématique-là. Et je vais vous faire rire parce que j'ai rencontré un radiesthésiste, un sourcier qui trouvait de l'eau, donc qui était un vigneron de Chinon. Donc c'était drôle, déjà, je trouvais. Et donc il m'a reçu chez lui. Il m'a fait une démonstration. Alors bien évidemment, c'était un peu truqué parce qu'il savait où était l'eau. Hein. On n'est pas parti en chercher au milieu du désert. Et il avait donc sa baguette de noisetier pour trouver l'eau. Et il me l'a mis entre les mains. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti quelque chose, quoi. C'est sa baguette de sorcier, Anne-Marie. Ça y est, ça dégénère.
C'est Anne-Marie qui a commencé.
On ne peut rien raconter dans cette émission.
Et donc, tu as trouvé.
Et donc, moi aussi, j'ai trouvé l'eau avec sa baguette de sorcier.
Il y avait des drôles de sensations.
Ouais, c'est. Enfin, t'as vraiment. Enfin, le. Oui. Je vais pas insister, mais la baguette s'est levée, quoi. C'était mon fluide, certainement.
T'es sûr que c'était la baguette?
Bon. Non, mais est-ce que c'est après que nous sommes allés boire dans sa cave?
Bon, ben voilà.
J'y crois, quoi. Vraiment, j'y crois. Alors, il faut savoir que dans certaines régions, ce Saint-Nicolas est accompagné du père Fouettard pour les enfants passage.
Comme Anne-Marie.
Voilà, qui est vêtue de... Oh, la pauvre, elle est dinde des passages. Oh là là, c'est ta fête hein, quand même aujourd'hui.
Alors, on profite tant qu'à faire. De...
En plus, elle a la bouche pleine, elle peut pas répondre.
Ah non, je peux, mais je n'ai rien à répondre.
Tu sais, la bave n'attend pas la blanche colombe.
Exactement, la bave du crapaud.
Les jeunes filles préparent un pain spécial, un kraoué ou kravage. Pour leur colédari favori. Alors, les colédari sont des hommes célibataires et la jeune fille, en lui offrant son gravage, exprime ainsi sa préférence pour l'un d'entre eux.
Eh bien,
hein, c'est chaud chez les Bulgares.
Alors, pour les seniors, eh ben c'est pareil que pour les bébés, j'ai envie de dire. Donc, dès l'âge de 50 à 60...
Mais tout est pareil chez les seniors et les bébés.
C'est un éternel recommencement. Oui. Dès l'âge de 50 à 60 ans, donc la structure du sommeil va se modifier au gré des changements. Ainsi, le temps de sommeil nocturne a tendance à diminuer, alors que le besoin de la sieste peut réapparaître. Comme chez les bébés, comme chez les nourrissons. Donc les personnes.
Chez certains, il n'a jamais disparu quand même. Oui. Tu ne le dis pas, mais.
C'est vrai.
Tu nous avais pas fait déjà une chronique sur les coins de sieste.
Il me semble bien.
Peut-être. J'ai pas dû assez dormir, je m'en souviens pas. Donc les personnes âgées dorment en moyenne 7 heures hein, sur les 24 heures. Alors cependant, les 7 heures de sommeil sont rarement consécutives. Hein. On sait que les personnes âgées parfois se lèvent la nuit et puis pendant une heure ou deux heures
c'est
ne dorment pas.
C'est d'autres soucis généralement.
Oui, mais ne se rendorment pas.
Qui les réveille ?
Mais ne se rendorment pas de oui, suite. Nous, sûr. Ça nous arrive de nous lever et puis on se rendort de suite.
Si vous voulez, vous pouvez nous appeler pour, pour nous donner vos témoignages.
Nous étions excellemment bien placés puisque nous avions pu choisir ça avant que le public rentre. Nous étions donc entre Julien Clerc et Michel Drucker et dans une salle qui n'est franchement pas très grande et contrairement à l'impression que peut donner la télévision. Et franchement, enfin, on a passé après 2 heures ou 2 heures et demie de concert et de discussion avec Julien Clerc, quasiment les yeux dans les yeux, donc vraiment un moment fabuleux. Bon, il y avait d'autres fans, c'était un peu pénible, mais bon, tant pis, hein, il fallait faire avec.
Oh, elles sont pénibles. Alors, et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que toi, Guillaume, est-ce que toi, Caroline, vous jouez aux jeux de société ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui. Avec les enfants et avec des amis.
Moi, je joue avec des jeux d'enfants, avec des adultes.
Mais c'est bien aussi.
Oui, tout à fait.
Une bonne paye, je peux vous dire, entre trentenaires, c'est très très drôle. L'automne arrive et qui dit automne dit rhume, mal de gorge, grippe, angine. Et comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis touché. Autre dégât de la rentrée, le compte en banque. Bon, d'abord, il y a forcément la régulation des impôts. Alors, c'est toujours
enfin,
bien. C'est
pas pour tout le monde, hein.
Oui.
Parce qu'il y en a.
Oui, c'est sûr. C'est hein mais bon, c'est toujours bien d'en payer.
Pour l'administratiophobie.
Voilà.
Voilà. C'est ça, la phobie administrative. Alors, c'est toujours bien de payer des impôts et c'est important aussi pour le bien public. Mais bon, quand même, le compte en banque fait la gueule. Après, c'est sans compter que pour la rentrée, que vous ayez des enfants ou non, on se remet en ordre de marche, on va faire des courses monstrueuses. Et alors évidemment, si vous avez des enfants, alors là, il faut rajouter les fournitures scolaires. Mais bon, quand même, une bonne nouvelle cette année, puisque fini la flûte à bec au collège.
Ah, je suis pas d'accord avec toi, moi j'adorais ça.
Ben oui, mais c'est une bonne nouvelle sur le plan des économies, hein. Moi je ne parlais que de ça. Bon, alors le plus fou des régimes maintenant, celui du air diet, c'est comme la air guitare ou
exactement.
Je sens que ça va me plaire ça.
Mais moi aussi ou pas. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire à midi d'ailleurs. Ouais.
Elle me l'avait proposé, j'ai radicalement refusé, Guillaume.
Ah bon.
Mais oui d'ailleurs c'est bizarre, j'ai pas compris pourquoi. Donc le principe, hein, vous l'aurez compris, faire semblant de manger.
Ah mais c'est pas la air diet, c'est le air repas. Parce que si c'est pour faire semblant de faire. Peu importe. Parce qu'en fait, tu fais réellement la diète. Alors que normalement, quand tu fais de l'air guitare, tu fais pas de la guitare.
Timide. Oui. Quand tu fais du air guitare.
Oui, donc tu fais un air repas pour faire la diète.
C'est un air repas pour faire la diète.
Oui, mais écoute, moi, Guillaume, c'est pas moi qui donne les noms des régimes, d'accord ? Donc tu vois ça avec l'inventeur de ce régime, ok, tu m'engueules pas. Hein, parce que ça y est, il a passé un week-end là au bord de la piscine, monsieur y rentre et il est complètement changé. C'est pas moi qui ai inventé ce concept. Ok.
Mais ok.
Donc c'est pas moi qui ai inventé le air diète.
Bon, allons-y pour
le air. Tu devrais peut-être aller te faire un petit week-end au bord de la piscine, Anne-Marie.
Ah non, mais.
Allez, un peu de...
Je me fais agresser. Alors.
Un peu de air diet, allons-y.
T'as envie de savoir comment ça se passe?
Oui, allons-y.
Bon, allez, tu trépines d'impatience. Alors, vous faites entrer votre cuillère ou votre fourchette dans votre bouche, vous mâchez et vous avalez. Vous adoptez donc les mêmes gestes que lorsque vous mangez, mais seulement vous consommez de l'air. Donc voilà.
C'est pas bon pour l'aérophagie.
C'est sûr.
Heureusement qu'elle nous l'a mis à la fin, celui-là. Parce oui. Que...
Exceptionnel dans son principe, le régime appelé air diet, et c'est pas moi qui ai inventé ce nom, est certainement le moyen le plus rapide pour perdre du poids. Il est tout à fait évident que vous perdez du
ça
poids.
Ça y est, rien. Guillaume s'y est mis.
Voilà. Oui, mais tu t'y mets aussi après avoir mangé de la charcuterie, ça marche pas. De plus, vous pouvez pas me contredire, il permettra sans aucun doute de faire des économies.
Ah, ça, c'est sûr.
C'est sûrement.
Mais il n'y a rien de bon à pratiquer l'air diète, comme vous ne consommez rien, vous vous exposez à un risque de carence très grave. Et pas que,
bravo,
on l'a compris, Caroline.
C'est le régime grève de la faim, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Bref, pas besoin d'être une angélique blonde ou une flamboyante rousse pour se sentir unique, souvent décrite comme intelligente et travailleuse. Alors, je cite bien Terra Femina, hein.
Oui, t'as pas déformé, non ?
Non, pas du tout. Les brunes...
Alors, je confirme, Anne-Marie est intelligente et travailleuse.
Non. Les brunes ont même une preuve irréfutable pour le prouver. Les recherches ont en effet montré que la majorité des personnes ayant remporté des prix Nobel avaient les cheveux bruns. Sérieuses, donc, ces femmes-là sont également réputées pour avoir une grande confiance en elles et être à l'écoute des autres.
Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en grève.
Bon, bah, tu nous as quand même donc prévu une playlist de grève.
Eh ben oui, et je me suis un peu appliqué à vous la faire tout d'abord pour essayer de tenir la comparaison avec les professionnels de la radio publique, hein, à ma modeste mesure. Mais aussi pour faire plaisir à une de nos fidèles auditrices qui, écoutant nos directs électoraux, présentés d'ailleurs d'une main de maître par Anne-Marie, avait envoyé un SMS en trouvant très moyenne la programmation musicale de la playlist habituelle de 48FM. Sans doute trop habituée à la programmation éclectique, pour ne pas dire moins, d'Actuel et lui.
Sûrement.
Et donc enfin, pour se faire plaisir, en repensant à d'anciennes chroniques que ces morceaux ont accompagnées en leur temps.
Voilà, on commence par quoi ?
Alors, c'est le pire de notre programmation, hein, ce qui a fait saigner les oreilles de Ludo, de Julia, voilà, donc...
Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, il y a des oiseaux fleurs, des dragons souffleurs, chichi, et tous les enfants vont passer le temps. Chou, du tam-tam, des bongos, des bambous, des tumba, en chantant cette air-là, ah, le trois chaud.
Et voilà, la fin. Bah, de...
Merci en tout cas, Guillaume.
Ouais, c'est bon moment, ouais, voilà. Très agréable.
Bon, voilà, bon, il y avait effectivement. C'était un peu sélectif.
Un petit peu parti pris.
Oui, bon, bah, les sujets un peu plus sérieux, évidemment. Bah, après, t'es moins à voir ce genre d'extrait, donc forcément, voilà. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez toujours nous réécouter sur 48fm.org. Vous pouvez réécouter tous les anciens numéros de nos émissions, hein. Voilà, vous pouvez entendre la totalité de la playlist de grève, vous pouvez retrouver les conseils tendances d'Anne-Marie, la fameuse chronique sur le thé matcha avec Aurélie, où nous avions fait des découvertes.
Bon, on est toujours vivants.
Oui, mais
de justesse,
on n'est pas passé loin. Enfin voilà, donc en tous les cas, on vous souhaite tous un très bel été.
Attention au coup de soleil.
Ouais. Vous pouvez réécouter cette dernière quand même mardi à 19h et jeudi prochain à 12h30.
Tout à fait. Et puis vous pourrez aussi nous régoûter sans doute aussi pendant l'été, puisqu'il y aura des petites rediffusions.
L'été, c'est quoi ça, Guillaume? Tu peux me raconter? Mais...
Je ne sais pas. Et puis on...
Quand tu parles d'été, c'est juillet, août peut-être. Voilà,
voilà, c'est ça. Bah, pour moi, dans tous les cas, pendant la saison d'été, effectivement, de 48FM. Et puis, bah, vous pouvez aussi nous retrouver peut-être pour la fête de la musique, puisqu'il y aura une soirée spéciale sur 48FM, avec des participations un petit peu de toutes les voix de la radio. Et donc, nous serons là... aussi, donc on vous souhaite à tous plein de bonnes choses. On se donne rendez-vous avec Caroline à la rentrée.
Ouais.
Anne-Marie, on te souhaite plein de bonnes choses pour
la
suite.
Merci à vous aussi et gros bisous.
À bientôt.
À bientôt.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel, elle et lui.